Aristote, Métaphysique, livre 7, chapitre 11 à 17. Chapitre 11. C'est une véritable difficulté de déterminer quelles parties appartiennent à la forme et quelles parties appartiennent non à la forme, mais à l'ensemble de la forme et de la matière. Et pourtant, si ce point n'est pas éclairci, il n'est pas possible de définir les individus. Ce qui entre dans la définition, c'est l'universel et la forme. Si donc on ne voit pas quelles parties sont ou ne sont pas matérielles, on ne verra pas non plus quelle doit être la définition de l'objet. Dans les cas où la forme s'applique à des choses d'espèces différentes, par exemple le cercle, lequel peut être en airain, en pierre, en bois. Dans tous ces cas, la distinction paraît facile. Ni l'airain ni la pierre ne font partie de l'essence du cercle puisque le cercle a une existence indépendante de la leur. Mais qui empêche qu'il en soit de même dans tous les cas où cette indépendance ne frappe pas les yeux? Tous les cercles visibles, fussent-ils d'airain, l'airain n'en serait pas davantage pour cela une partie de la forme. Toutefois, il est difficile à la pensée d'opérer cette séparation. Ainsi, ce qui constitue à nos yeux la forme, ce sont les chairs, les os et les parties analogues. Serait-ce donc là des parties de la forme et qui entrent dans la définition, ou bien n'est-ce pas là plutôt la matière? Mais la forme humaine ne s'applique jamais à d'autres choses que celles dont nous parlons. De là, l'impossibilité pour nous de les séparer. La séparation semble possible, il est vrai, mais on ne voit pas clairement dans quelles circonstances. Et cette difficulté, selon quelques-uns, porte même sur le cercle et le triangle. Aussi, pense-t-il qu'on ne doit pas les définir par la ligne et par la continuité, lesquelles ne sont en eux qu'au même titre que la chair et les os dans l'homme, et dans le cercle, la pierre et les reins. Ils ramènent tout au nombre et prétendent que la définition de la ligne, c'est la notion même de la dualité. Parmi ceux qui admettent les idées, les uns disent que c'est la dyade qui est la ligne en soi, les autres que c'est l'idée de la ligne. Car si quelquefois il y a identité entre l'idée et l'objet de l'idée, entre la dyade par exemple et l'idée de la dyade, la ligne n'est pas dans ce cas. Il s'ensuit alors qu'une seule idée est l'idée de plusieurs choses qui pourtant semblent hétérogènes. Et c'était là qu'amenait déjà le système des pythagoriciens, et pour conséquence dernière, la possibilité de constituer une seule idée en soi de toutes les idées, c'est-à-dire l'anéantissement des autres idées et la réduction de toute chose à l'unité. Pour nous, nous avons marqué la difficulté relative aux définitions et nous avons dit la cause de cette difficulté. Aussi, n'avons-nous pas besoin de réduire ainsi toute chose et de supprimer la matière. Ce qui est probable, c'est que dans quelques êtres, il y a réunion de la matière et de la forme, dans d'autres, de la substance et de la qualité. Et la comparaison dont se servait ordinairement Socrate le jeune au sujet de l'animal manque de justesse. Elle nous fait sortir de la réalité et donne à penser que l'homme peut exister indépendamment de ses parties, comme le cercle existe indépendamment de l'airain. Mais il n'y a pas parité. L'animal est un être sensible, et on ne peut le définir sans le mouvement. Par conséquent, sans des parties organisées d'une certaine façon déterminée. Ce n'est pas la main absolument parlant qui est une partie de l'homme, mais la main capable d'accomplir l'œuvre, la main animée. Inanimée, elle n'est pas une partie de l'homme. Mais pourquoi, chez les êtres mathématiques, les définitions n'entrent-elles pas comme partie dans les définitions ? Pourquoi, par exemple, ne définit-on pas le cercle par les demi-cercles ? Les demi-cercles ne sont pas, dira-t-on, des objets sensibles. Mais qu'importe, il peut y avoir une matière même dans des êtres non sensibles. Tout ce qui n'est pas l'essence pure, la forme proprement dite, tout ce qui a une existence réelle a une matière. Le cercle qui est l'essence de tous les cercles ne saurait en avoir une. Mais les cercles particuliers doivent avoir des parties matérielles comme nous l'avons dit plus haut. Car il y a deux sortes de matière, l'une sensible, l'autre intelligible. Il est évident d'ailleurs que la substance première dans l'animal, c'est l'âme et que le corps est la matière. L'homme, ou l'animal en général, c'est l'union de l'âme et du corps. Mais Socrate, mais Coriscus, est par la présence de l'âme un animal double, car son nom désigne tantôt une âme, tantôt l'ensemble d'une âme et d'un corps. Toutefois, si l'on dit simplement l'âme de cet homme, le corps de cet homme, ce que nous avons dit de l'homme au point de vue général, s'applique alors à l'individu. Existe-t-il quelque autre substance en dehors de la matière de ces êtres ? Et faut-il que nous cherchions, s'ils n'ont pas eux-mêmes une autre substance ? Les nombres, par exemple, ou quelque chose d'analogue ? C'est un point que nous examinerons plus tard, car c'est dans l'intérêt de cette recherche que nous nous efforçons d'arriver à la définition des substances sensibles, substances dont l'étude est plutôt l'affaire de la physique et de la seconde philosophie. Ce que doit connaître en effet le physicien, ce n'est pas seulement la matière, c'est la matière intelligible, c'est celle-là surtout. Comment donc les parties sont-elles parties dans la définition ? Et pourquoi y a-t-il unité de notion dans la définition ? Il est évident, en effet, que l'objet défini est un. Mais en quoi consiste l'unité d'un objet composé de parties ? C'est ce que nous examinerons plus tard. Nous avons montré, pour tous les êtres en général, ce que c'était que l'essence pure, comment elle existait en soi. Et pourquoi, dans certains cas, les parties du défini entraient dans la définition de l'essence pure, tandis qu'elles n'y entraient pas dans les autres. Nous avons dit aussi que les parties matérielles du défini n'entraient pas dans la définition de la substance, car les parties matérielles ne sont pas des parties de la substance, si ce n'est de la substance totale. Celle-ci a une définition et n'en a pas, selon le point de vue. On ne peut embrasser dans la définition la matière, laquelle est l'indéterminée. Mais on peut définir par la substance première. La définition de l'âme, par exemple, est une définition de l'homme. Car l'essence est la forme intrinsèque qui, par son concours avec la matière, constitue ce qu'on nomme la substance réalisée. Prenons, pour exemple, le retroussé. C'est son union avec le nez qui constitue le nez Camus et le Camus, car la notion du nez est commune à l'une et à l'autre de ces deux expressions. Mais dans la substance réalisée, dans nez Camus, Calias, il y a à la fois essence et matière. Pour certains êtres, nous l'avons dit, pour les substances premières, il y a identité entre l'essence et l'existence individuelle. Ainsi, il y a identité entre la courbure et la forme substantielle de la courbure, pourvu que la courbure soit première. Et j'entends par première celle qui n'est point l'attribut d'un autre être, qui n'a pas de sujet, de matière. Mais dans tout ce qui existe matériellement, ou comme formant un tout avec la matière, il ne peut y avoir identité, pas même identité accidentelle, comme l'identité de Socrate et du musicien, lesquels sont identiques l'un à l'autre accidentellement. Chapitre 12. Discutons avant tout les points relatifs à la définition que nous avons passée sous silence dans les analytiques. La solution de la difficulté que nous n'y avons qu'indiquée nous servira pour nos recherches concernant la substance. Voici cette difficulté. Pourquoi y a-t-il unité dans l'être défini, dans l'être dont la notion est une définition? L'homme est un animal à deux pieds. Admettons que ce soit là la notion de l'homme. Pourquoi cet être est-il un seul objet, et non pas plusieurs, animal et bipède? Si l'on dit homme et blanc, il y a pluralité d'objets quand l'un n'existe pas dans l'autre, mais il y a unité quand l'un est attribut de l'autre, quand le sujet, l'homme, éprouve une certaine modification. Dans le dernier cas, les deux objets en deviennent un seul, et l'on a l'homme blanc. Dans le premier, au contraire, les objets ne participent point l'un de l'autre, car le genre ne participe point, ce semble, des différences. Sinon, la même chose participerait à la fois des contraires. Les différences qui marquent les distinctions dans le genre étant contraires l'une à l'autre. Y eut-il participation? Il en serait de même encore. Il y a pluralité dans les différences. Ainsi, animal qui marche à deux pieds, sans plumes. Pourquoi donc y a-t-il là unité et non pas pluralité? Ce n'est pas parce que ce sont les éléments de l'être, car alors l'unité serait la réunion de toutes choses. Or, il faut que tout ce qui est dans la définition soit réellement un, car la définition est une notion une, c'est la notion de l'essence. Elle doit donc être la notion d'un objet un, puisque essence signifie, comme nous avons dit, être déterminé. Nous avons à nous occuper d'abord des définitions qui se font par les divisions du genre. Il n'y a dans la définition rien autre chose que le genre premier et les différences. Les autres genres ne sont que le genre premier et les différences réunies au genre premier. Ainsi, le premier genre, c'est animal. Le suivant, animal à deux pieds. Un autre, animal à deux pieds sans plumes. De même encore, si la proposition contient un plus grand nombre de termes, et en général, peu importe qu'elle en contienne ou un grand nombre ou un petit nombre ou deux seulement. Quand il n'y a que deux termes, l'un est la différence, l'autre le genre. Dans animal à deux pieds, animal est le genre. La différence, c'est l'autre terme. Soit donc que le genre n'existe absolument pas en dehors des espèces du genre, ou bien qu'il existe, mais n'existe que comme matière. Le son est, par exemple, genre et matière. Et c'est de cette matière que les différences tirent les espèces et les éléments. Il est évident que la définition est la notion fournie par les différences. Ce n'est pas tout. Il faut marquer la différence dans la différence. Prenons un exemple. Une différence dans le genre animal. C'est l'animal qui a des pieds. Il faut ensuite connaître la différence de l'animal qui a des pieds en tant qu'il a des pieds. Par conséquent, on ne doit pas dire « entre les animaux qui ont des pieds, les uns ont des plumes, les autres n'en ont pas », quoique cette proposition soit vraie. On n'en usera de la sorte que dans l'impossibilité de diviser la différence. On dira donc « les uns ont le pied divisé en doigts, les autres n'ont pas le pied divisé en doigts ». Ce sont là, en effet, des différences du pied. La division du pied en doigts est une manière d'être du pied. Et il faut poursuivre de cette façon jusqu'à ce qu'on arrive à des objets entre lesquels il n'y a plus de différence. À ce point, il y aura autant d'espèces de pieds que de différences, et les espèces d'animaux ayant des pieds seront en nombre égal aux différences du pied. Or, s'il en est ainsi, il est évident que la dernière différence doit être l'essence de l'objet et la définition, car il ne faut pas, dans les définitions, répéter plusieurs fois la même chose, ce serait inutile. Cela se rencontre pourtant quand on dit « animal à pied, bipède ». Qu'est-ce dire sinon « animal ayant des pieds, ayant deux pieds » Et si l'on divise ce dernier terme dans les divisions qui lui sont propres, il y aura plusieurs tautologies autant que de différences. Si l'on a atteint la différence de la différence, une seule, la dernière, est la forme, l'essence de l'objet. Mais, si c'est par l'accident qu'on distingue, comme par exemple, si l'on divisait les animaux qui ont des pieds en blanc et en noir, alors, il y aurait autant d'essence que de division. On voit donc que la définition est la notion fournie par les différences et qu'il convient que ce soit celle de la dernière différence. C'est ce qui se montrerait clairement si l'on transposait les termes des définitions qui contiennent plusieurs différences, si l'on disait par exemple « l'homme est un animal à deux pieds qui a des pieds ».« Qui a des pieds » est inutile quand on a dit « qui a deux pieds ». Et puis, dans les sens, il n'y a pas de rang, car comment peut-on concevoir en elle la relation de priorité et de postériorité ? Telles sont les premières remarques que nous avions à présenter sur les définitions qui se font par les divisions du genre. Chapitre 13. Il s'agit pour nous de l'étude de la substance. Revenons donc sur nos pas. Substance se prend pour le sujet, pour l'essence pure, pour la réunion de l'un et de l'autre, pour l'universel. Deux d'entre ces acceptions ont été examinées, l'essence pure et le sujet. Nous avons dit que le sujet s'entend de deux manières. Il y a l'être déterminé, ainsi l'animal sujet des modifications, il y a la matière sujet de l'acte. Il semble que l'universel est, lui aussi, lui surtout, cause de certains êtres, et que l'universel est un principe. Occupons-nous donc de l'universel. Il est impossible, selon nous, qu'aucun universel, quel qu'il soit, soit une substance. Et d'abord, la substance première d'un individu, c'est celle qui lui est propre, qui n'est point la substance d'un autre. L'universel, au contraire, est commun à plusieurs êtres, car ce qu'on nomme universel, c'est ce qui se trouve de la nature en un grand nombre d'êtres. De quoi l'universel sera-t-il donc substance? Il est de tous les individus ou il ne l'est d'aucun. Et qu'il le soit de tous, cela n'est pas possible. Mais si l'universel était la substance d'un individu, tous les autres seraient cet individu, car l'unité de substance et l'unité d'essence constituent l'unité d'être. D'ailleurs, la substance, c'est ce qui n'est pas l'attribut d'un sujet. Or, l'universel est toujours l'attribut de quelque sujet. L'universel ne peut-il donc pas être substance à titre de forme déterminée? L'animal ne peut-il pas être l'essence de l'homme et du cheval? Mais alors, il y aurait donc une définition de l'universel. Or, que la définition renferme ou non toutes les notions qui sont dans la substance, peu importe. L'universel n'en sera pas moins la substance de quelque chose. Homme sera par exemple la substance de l'homme en qui il réside. De sorte que nous retomberons dans la même conséquence que tout à l'heure. En effet, ta substance sera substance d'un individu. L'animal le sera de l'individu dans lequel il réside. Il est impossible d'ailleurs, il est absurde, que l'essence et la substance, si elles sont un produit, ne soient ni un produit de substance, ni un produit d'essence, et qu'elles viennent de la qualité. Alors, ce qui n'est pas substance, la qualité, aurait la priorité sur la substance et sur l'essence, ce qui est impossible. Il n'est pas possible que, ni dans l'ordre des notions, ni dans l'ordre chronologique, ni dans l'ordre de production, les modifications soient antérieures à la substance, sans quoi elle serait susceptible d'avoir une existence indépendante. D'ailleurs, dans Socrate, dans une substance, existerait alors une autre substance. Socrate serait la substance de deux substances. La conséquence en général, c'est que si l'individu homme est une substance et tous les individus avec lui, rien de ce qui entre dans la définition des substances de quoi que ce soit, ni n'existe séparé des individus, ni dans autre chose que les individus. C'est-à-dire, par exemple, qu'en dehors des animaux particuliers, il n'y a pas quelque autre animal, il n'y a rien de ce qui entre dans la définition. Il est donc évident, d'après ce qui précède, que rien de ce qui se trouve universellement dans les êtres n'est une substance, et qu'aucun des attributs généraux ne marque l'existence déterminée, mais qu'il désigne le mode de l'existence. Sans cela, outre une foule d'autres conséquences, on tombe dans celle du troisième homme. Voici encore une autre preuve. Il est impossible que la substance soit un produit de substance qu'elle contiendrait en acte. Deux êtres en acte ne deviendront jamais un seul être en acte. Mais si les deux êtres ne sont qu'en puissance, il pourra y avoir unité. En puissance, le double, par exemple, se compose de deux moitiés. L'acte sépare les êtres. Si donc il y a unité dans la substance ne saurait être un produit de substance contenue en elle. Et de cette manière, l'expression dont se sert Démocrite est fondée en raison. Il est impossible, dit-il, que l'unité vienne de deux ou deux de l'unité. En effet, pour Démocrite, les grandeurs indivisibles sont les substances. La même conséquence s'applique encore au nombre. Si le nombre est, comme le disent quelques-uns, une collection de monades, où la dyade n'est pas une unité, ou bien la monade n'existe pas en acte dans la dyade. Toutefois, ces conséquences entraînent une difficulté. Si l'universel ne peut constituer aucune substance, parce qu'il désigne la manière d'être et non l'existence déterminée, et qu'aucune substance ne peut être composée de substances en acte, alors toute substance doit être simple. Il ne doit donc y avoir de définition d'aucune substance. Pourtant, tout le monde pense, et nous avons dit plus haut, que la substance seule, ou du moins qu'elle surtout, a une définition. Et voilà qu'elle-même n'en a pas. N'y aurait-il donc définition de rien absolument? Ou bien, y aurait-il définition dans un certain sens et dans un autre non? C'est un point qui s'éclaircira par la suite. Chapitre 14. On voit assez les conséquences de ce qui précède pour le système de ceux qui admettent les idées comme substance et comme ayant une existence indépendante et qui en même temps constituent l'idée avec le genre et les différences. Si dans l'homme, si dans le cheval, il y a les idées et l'animal, où l'animal et les idées sont une seule et même chose numériquement, ou bien ils diffèrent. Or, il est évident qu'il y a unité de notion. Pour définir l'un et l'autre terme, il faudrait énumérer les mêmes caractères. Si donc il y a un homme en soi, ayant une existence déterminée et indépendante, nécessairement alors, ce qui le constitue, l'animal et le bipède, ont, eux aussi, une existence déterminée, sont indépendants, sont des substances, et par conséquent, l'animal soit. Or, supposons que l'animal en soi réside dans le cheval au même titre que tu es dans toi-même. Comment sera-t-il dans des êtres qui existent séparément? Et pourquoi dans ce cas, l'animal dont nous parlons ne sera-t-il pas séparé de lui-même? Ce n'est pas tout. Si l'animal en soi participe de l'animal qui n'a que deux pieds et de celui qui en a un plus grand nombre, il en résulte une impossibilité. Le même être, un être un et déterminé, réunirait à la fois les contraires. Mais s'il n'y a pas participation, à quel titre dira-t-on que l'animal est un bipède, qu'il est un être qui marche? Y aurait-il par hasard composition, contact ou mélange? Mais toutes ces suppositions sont absurdes. L'animal serait-il différent dans chaque individu? Il y aurait donc alors une infinité d'êtres, si je puis dire, qui auraient l'animal pour substance, car l'homme n'est pas un accident de l'animal. Ajoutez que l'animal en soi serait multiple. D'un côté, en effet, l'animal dans chaque individu est substance. Il n'est point l'attribut d'un autre être, sinon ce serait cet être qui constituerait l'homme et qui en serait le genre. D'un autre côté, enfin, toutes les choses qui constituent l'homme sont des idées. L'animal ne sera donc pas l'idée d'une chose, la substance d'une autre. Il y a impossibilité. L'animal en soi serait chacune des choses que renferment les animaux. Et d'ailleurs, quel animal en soi constituerait les animaux? Et comment serait-ce le même animal en soi? Comment est-il possible que l'animal dont la substance est l'animal en soi existe en dehors de l'animal en soi? Les mêmes conséquences reparaissent au sujet des êtres sensibles et de plus absurdes encore. Si donc il y a impossibilité de maintenir la supposition, il est évident qu'il n'y a pas d'idée des objets sensibles dans le sens où l'entendent quelques philosophes. Chapitre 15. L'ensemble et la forme définie sont des substances différentes l'une de l'autre. J'entends par ensemble la substance qui se compose par la réunion de la forme définie et de la matière. L'autre substance est purement et simplement la forme définie. Tout ce qui est substance à titre d'ensemble est sujet à destruction, car il y a production d'une telle substance. Pour la forme définie, elle n'est point sujette à destruction car elle n'est pas produite. Ce qui est produit, ce n'est point la forme substantielle de la maison, c'est telle maison particulière. Les substances formelles existent ou n'existent pas, indépendamment de toute production, de toute destruction. Nous avons montré que personne ne les produit, que personne ne les fait. C'est pour cela qu'il n'y a ni définition, ni démonstration des substances sensibles particulières. Ces substances ont une matière, et telle est la nature de la matière qu'elle peut être ou n'être pas. D'où il suit que toutes les substances sensibles particulières sont des substances périssables. Or, la démonstration s'applique à ce qui est nécessaire, et la définition appartient à la science. Et de même qu'il est impossible que la science soit tantôt science et tantôt ignorance, et que ce qui est dans ce cas n'est qu'une opinion, de même, il n'y a pas non plus de démonstration ni de définition, mais une opinion concernant ce qui est susceptible d'être autrement qu'il n'est. Les substances sensibles ne doivent donc évidemment avoir ni définition ni démonstration. Les êtres périssables ne se manifestent plus à la connaissance quand ils sont hors de la portée des sens. Et dès lors, bien que les notions substantielles se conservent dans l'âme, il ne peut plus y avoir ni définition ni démonstration de ces êtres. Aussi faut-il que ceux qui servent de définition sachent bien que toujours on peut supprimer la définition d'un être particulier, n'y ayant pas possibilité de définir véritablement ses êtres. Ce n'est pas tout. Aucune idée n'est susceptible de définition. L'idée, comme on l'entend, est un être particulier. Et elle est indépendante. Or, la définition se compose nécessairement de mots, et ces mots ne doivent point être l'ouvrage de celui qui définit, car ils n'auraient pas de signification connue. Les expressions dont on se sert doivent être intelligibles pour tous. Il faut donc bien que celle qui entrerait dans la définition de l'idée fasse partie de la définition d'autres êtres. Si l'on te définissait, on dirait animal, maigre ou blanc ou tel autre mot, lequel peut convenir à un autre être que toi. On prétendra sans doute que rien n'empêche que toutes les expressions ne conviennent séparément à un grand nombre d'êtres et qu'en même temps, ce soit à tel être seul qu'elle convienne. Mais d'abord, animal bipède est commun aux deux êtres, je veux dire l'animal et le bipède. Cette observation s'applique nécessairement aux êtres éternels. Ils sont antérieurs à tout et sont des parties du composé. Ils sont de plus indépendants de tout sujet. L'homme en soi est indépendant, car ou bien aucun être ne l'est, ou bien l'homme et l'animal le sont l'un et l'autre. Or, si aucun ne l'était, il n'y aurait pas de genre en dehors des espèces. Et si le genre est indépendant, la différence l'est aussi. Elle a d'ailleurs antériorité d'être. Il n'y a pas réciprocité de destruction entre le genre et la différence. Nous dirons ensuite que si les idées sont composées d'idées, les idées les plus simples sont les idées composantes. Il faudra donc encore que ce qui constitue l'idée, que l'animal et le bipède, par exemple, se disent d'un grand nombre d'êtres. Sans cela, comment arriver à la connaissance? Il y aurait une idée particulière qu'il serait impossible d'appliquer à plus d'un individu. Or, dans le système, au contraire, toute idée est susceptible de participation avec les êtres. Ainsi donc que nous l'avons dit, on ne s'aperçoit pas qu'il y a impossibilité de définir les êtres éternels, et surtout ceux qui sont uniques, tels que le soleil et la lune. C'est une erreur que d'ajouter des caractères dont la suppression n'empêcherait pas qu'il y eût encore un soleil. Les épithètes qui fait le tour de la terre, qui se cache durant la nuit par exemple. Sans cela, le soleil s'arrêtant ou apparaissant durant la nuit, il n'y aurait plus de soleil. Or, il serait absurde qu'il n'y en eût plus, car le soleil est une substance. Ensuite, ces caractères peuvent convenir à d'autres êtres. Et si un autre être le possède, cet être sera le soleil. Il y aura communauté de définition. Or, il a été admis que le soleil est un être particulier, comme Cléon, comme Socrate. Enfin, pourquoi aucun de ceux qui admettent les idées n'en donne-t-il une définition? On verrait clairement s'ils essayaient de le faire, la vérité de ce que nous venons de dire. Chapitre 16. Il est évident que parmi les choses qui semblent être substances, la plupart ne le sont qu'en puissance. Telles sont les parties des animaux. Aucune d'elles n'a une existence indépendante. Sont-elles séparées de leur sujet? Alors, elles n'existent plus qu'à l'état de matière. Et comme elles, la terre, le feu, l'air. Car il n'y a pas d'unité dans les éléments. Ils sont comme un monceau avant la concoction, avant qu'ils ne composent quelque chose qui soit un. On pourrait croire que les parties des êtres animés surtout et les parties de l'âme réunissent en quelque sorte les deux caractères, qu'elles sont en acte et en puissance. Il y a dans les articulations des principes. Je reprends « il y a ». 1, 2, 3. Il y a dans les articulations des principes de mouvement. Principe, il est vrai, produit par un autre principe, mais qui font que certains animaux vivent encore quand ils sont divisés en parties. Toutefois, il n'y a substance en puissance que lorsqu'il y a unité et continuité naturelle. Dans le cas où l'unité et la continuité sont le résultat de la violence ou d'une connexion arbitraire, alors ce n'est qu'une mutilation. L'unité se prend dans le même sens que l'être, et la substance de l'unité est une, et les êtres dont la substance est une en nombre sont numériquement un seul être. On voit, puisqu'il en est ainsi, que ni l'unité ni l'être ne peuvent être substance des choses, et pas plus que l'élément ni le principe. Quand nous demandons quel est le principe, c'est ce que nous voulons, ramener l'objet en question à un terme plus connu. L'être et l'unité ont plus de titres à être substance des choses que le principe, l'élément, la cause, et pourtant, eux-mêmes, ils ne le sont pas. Rien n'est substance qui est commun aux êtres. La substance n'existe dans aucun autre être que dans elle-même et dans l'être auquel elle appartient, dont elle est la substance. D'ailleurs, ce ne serait pas en même temps que l'unité serait substance dans plusieurs êtres. Or, il faut que ce qui est commun à tous les êtres se trouve en même temps dans chacun d'eux. Il est donc évident que rien d'universel n'a une existence isolée des êtres particuliers. Toutefois, ceux qui admettent les idées ont raison dans un sens de leur donner une existence indépendante puisque ce sont des substances. Mais dans un autre sens, ils ont tort de faire de l'idée une unité dans la pluralité. La cause de leur erreur, c'est l'impossibilité où ils sont de dire quelle est la nature de ces substances impérissables qui sont en dehors des substances particulières et sensibles. Aussi font-ils ces substances à l'image des substances périssables, de celles que nous connaissons. C'est l'homme en soi, le cheval en soi. Ils ne font qu'ajouter à l'être sensible l'expression « en soi ». Et pourtant, quand même nous ne verrions pas les astres, il n'y en aurait pas moins, je le crois, des substances sensibles, éternelles, en dehors des substances que nous connaîtrions. Ainsi, quand même nous ignorerions quelles substances sont éternelles, toutefois, il devrait encore y en avoir nécessairement quelques-unes. Nous avons montré que rien de ce qui s'applique à tous les êtres n'est substance, et qu'il n'y a aucune substance composée de substances. Chapitre 17. Qu'est-ce que la substance et en quoi consiste-t-elle? C'est ce que nous allons dire. De la sorte, nous ferons, pour ainsi dire, un autre principe, car il sortira probablement de cette recherche quelques lumières relativement à cette substance qui existe séparée des substances sensibles. La substance est un principe et une cause. C'est de ce point de vue qu'il nous faut partir. Or, se demander le pourquoi, c'est toujours se demander pourquoi une chose dans un autre. En effet, si l'on cherche pourquoi l'homme musicien est un homme musicien, ou bien l'on cherche ce que l'on vient d'exprimer, c'est-à-dire pourquoi l'homme est musicien, ou bien l'on cherche autre chose. Or, chercher pourquoi une chose est elle-même, c'est ne rien chercher. Il faut que la chose dont on cherche le pourquoi se manifeste réellement. Il faut par exemple qu'on ait vu que la lune est sujette à des éclipses. Dans le cas où l'on demande pourquoi un être est lui-même, pourquoi l'homme est homme ou le musicien musicien, il n'y a qu'une réponse à faire à toutes ces questions, qu'une raison à donner, à moins toutefois qu'on ne réponde, c'est parce que chacun de ces êtres est indivisible en lui-même, c'est-à-dire parce qu'il est un. Réponse qui s'applique aussi à toutes les questions de ce genre et qui les résout en peu de mots. Mais on peut se demander, pourquoi l'homme est-il animal? Dans ce cas, évidemment, ce n'est pas chercher pourquoi l'être qui est un homme est un homme. C'est chercher pourquoi un être se trouve dans un autre être. Il faut toutefois qu'on voit bien qu'il s'y trouve. S'il n'en était pas ainsi, la recherche n'aurait aucun but. Pourquoi tonne-t-il? C'est parce qu'un bruit se produit dans les nuages. Dans cet exemple, ce qu'on cherche, c'est l'existence d'une chose dans une autre chose, de même que quand on se demande pourquoi ceci, ces briques et ces pierres, est-il une maison? Il est donc évident que ce qu'on cherche, c'est la cause. Or, la cause, au point de vue de la définition, c'est l'essence. Dans certains cas, l'essence est la raison d'être. Ainsi, pour la maison, pour le lit probablement. Elle est le premier moteur dans d'autres, car lui aussi, il est une cause. Mais cette dernière cause ne se rencontre que dans les faits de production et destruction, tandis que la cause formelle agit même dans le fait de l'existence. La cause échappe, surtout quand on ne rapporte pas les êtres à d'autres êtres. Si l'on ne voit pas Pourquoi l'homme est homme ? C'est parce que l'être n'est rapporté à rien, parce qu'on ne détermine pas qu'il est telle chose ou telle chose. Mais c'est là ce qu'il faut dire et dire clairement avant de chercher la cause. Sinon, ce serait à la fois chercher quelque chose et ne rien chercher. Puisqu'il faut que l'être dont on se demande la cause ait une existence certaine et qu'il soit rapporté à un autre être, il est évident que ce qu'on cherche, c'est le pourquoi des états de la matière. Ceci est une maison. Pourquoi ? Parce que tel caractère s'y trouve, qui est l'essence de la maison. C'est pour la même cause que tel homme, tel corps, est telle ou telle chose. Ce qu'on cherche, c'est donc la cause de la matière. Et cette cause, c'est la forme qui détermine l'être, c'est l'essence. On voit donc que pour les êtres simples, il n'y a pas lieu à demande ni à réponse sur ce point, et que les questions qui se rattachent à ces êtres sont d'une autre nature. Ce qui a une cause est composé, mais il y a unité dans le tout. Il n'est pas une sorte de monceau, il est un, comme la syllabe. Or, la syllabe n'est pas seulement les lettres qui la composent, elle n'est pas la même chose que A et B. La chair non plus n'est pas le feu et la terre seulement. Dans la dissolution, la chair, la syllabe, cessent d'exister, tandis que les lettres, le feu, la terre, existent encore. La syllabe est donc quelque chose qui n'est pas seulement les lettres, la voyelle et la consonne. Elle est autre chose encore. Et la chair n'est pas seulement le feu et la terre, le chaud et le froid, mais encore autre chose. Admettra-t-on qu'il est nécessaire que ce quelque chose soit, lui aussi, ou bien un élément, ou bien un composé d'éléments ? Si c'est un élément, nous répéterons notre raisonnement de tout à l'heure. Ce qui constituera la chair, ce sera cet élément avec le feu, la terre et autre chose encore. Et de la sorte, on ira à l'infini. Si c'est un composé d'éléments, évidemment, il n'est pas composé d'un seul élément, mais de plusieurs. Sinon, il serait l'élément composant lui-même. Nous ferons donc pour lui le même raisonnement que pour la chair, la syllabe. La cause en question est donc, ce semble, quelque chose qui n'est pas élément et qui pourtant est la cause que ceci est de la chair, ceci une syllabe et pour les autres cas, de même. Or, cette cause, c'est la substance de chaque être, car c'est là la cause première de l'existence. Mais parmi les choses, il en est qui ne sont pas des substances. Il n'y a de substance que les êtres qui existent par eux-mêmes et dont rien d'autre chose qu'eux-mêmes ne constitue la nature. Par conséquent, c'est évidemment une substance que cette nature qui est dans les êtres non un élément mais un principe. Quant à l'élément, c'est ce en quoi se divise un être. C'en est la matière intrinsèque. Les éléments de la syllabe sont A et B. Fin du livre 7e.